Bille en tête, avec le Grand Hôtel des Races, 3 étoiles et sa terrasse panoramique, grandhotelrace.ch.
Bille en tête, Philippe Ligron et Duja.
Bonjour, Bille en tête sur la première. Qu'est-ce que vous connaissez de l'Empire romain ?
Tout ce qu'on sait dans Astérix.
Et bille en tête au musée romain de Vallon. Bonjour à tous. Ave Philippe.
Ave Duja. Bonjour Madame Agostini.
Donc Agustoni.
Agustoni, qui est archéologue et conservatrice du musée du Vallon. Donc merci de nous accueillir. On a parlé hier de gastronomie un petit peu. Il y a des légendes qui courent quand on parle de ces Romains, tout ça. Est-ce que c'est vrai cette histoire qu'à la fin, quand on avait plus faim, on se faisait vraiment vomir pour pouvoir remanger?
Ça commence bien, Philippe.
Bah oui, il faut attaquer dans le vif du sujet.
Alors bonjour à tous. Merci d'être venus. Oui. C'est la question que je me suis posée aussi en préparant cette exposition, parce que c'est l'image que tout le monde véhicule, donc depuis l'Antiquité, depuis les textes aussi, et puis les films, hein, donc on pense tous...
Caligula.
Oui, et puis au Satyricon de Féline, et puis voilà, beaucoup de choses qui sont dites en fait. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je pense que la question se pose...
Santus.
Santé.
Désolé.
Et... quelle est la part du vrai? Et c'est un peu la démarche de cette exposition, c'était de justement replonger dans les sources écrites, iconographiques, dans les, bien évidemment dans les découvertes archéologiques, pour voir en fait qu'est-ce qui s'est passé à l'époque romaine dans nos régions. Et oui, on a quelques images, on voit des gens qui ne sont pas très bien, donc après un banquet ou pendant un banquet, on a quelques images qui nous viennent de Pompéi. Mais on n'a pas beaucoup d'informations écrites, hein, somme toute, à part le Satyricon ou quelques rares passages, donc aussi dans la vie des Douze Césars, donc, par exemple.
Ces fameux banquets, Philippe, ils étaient autant orgiaques que ça?
Ouais, il y avait quand même, c'est-à-dire c'est différent. Il faut revoir les choses, remettre les choses dans leur contexte. Et du reste, ce contexte-là a duré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que le principe de recevoir des gens, il faut leur en mettre plein la vue. Hein. On l'a retrouvé avec Amédée VIII de Savoie au Moyen Âge, qui lui aussi, avec Maître Chicard, a laissé des traces. Est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas. Mais comme quoi, il faisait des banquets absolument hallucinants. Parce que plus on mettait de la nourriture de qualité rare, très originale, etc., devant les convives, à la disposition des convives, plus on avait, c'était une sorte de marque de respect. On l'a vu du reste avec les épices, c'est aussi ce qui a permis aux épices de perdurer comme ça, parce que ces épices étaient très chères, et le fait de mettre les épices à la disposition des convives était aussi une marque de confiance, et aussi une manière de montrer qu'on avait beaucoup d'argent.
Mais est-ce que parfois ça confinait pas à l'aberration gastronomique? On se souvient de certaines scènes dans Astérix, hein, chacun ses références, où on trempe tout dans de la graisse du russe et compagnie, on mange des trucs avec des myrtilles, c'est presque la morue aux fraises de Gaston, là aussi.
Alors, je sais pas ses références. Oui et non, t'as pas tout tort dans un sens, parce que, effectivement, là je suis en train de préparer ce repas romain, là, les 23 et 24 août, dans les arènes d'Avanche.
Ce n'est donc pas une orgie, on le répète pour tous les échangistes de Suisse romande.
Voilà, parce que ma mélange va être très fâchée sinon. Donc, c'était un festin romain. Et effectivement, on retrouve des choses assez particulières. Déjà, on n'avait pas vraiment des salades en entrée, des viandes en plat principal et des mets sucrés en dessert. C'était un joyeux foutoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait quand même cette tendance qui se dessinait, mais c'était pas complètement défini. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des entrées. Enfin, on avait trois services en général dans des banquets où on avait énormément de mets qui pouvaient venir, mais on pouvait avoir des mets sucrés dans tous les services. C'est-à-dire en entrée, en plat principal ou en dessert. Et une autre chose encore qui est assez particulière avec les banquets des Romains, c'est qu'on n'était pas obligé de servir les mêmes mets à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de hiérarchie dans le repas, où les mets les plus raffinés étaient servis aux personnes les plus considérées, dans le même repas. Ce qui fait que ça vexait pas mal les gens, parce qu'ils se retrouvaient avec des repas où ils avaient que les fonds de gamelle à manger, ou des mets de petite catégorie, et madame sera certainement d'accord avec moi, ça gênait des gens. En tout cas, il y a des gens qui n'étaient pas contents et qui ne voulaient plus revenir.
La finition pugilat, peut-être.
Pourquoi pas? Mais pour finir avec ta question sur les orgies, je voudrais quand même dire que les orgies, cette connotation était erronée, parce que c'était vraiment une orgie gastronomique, et le côté sexuel a été largement entretenu et exagéré par notre civilisation moderne.
Oui, c'est bizarre, parce que tu me racontais quand même hors émission que parfois les dames du lieu étaient remplacées par des nièces.
Alors parfois oui, j'ai pas dit que ça n'existait pas, mais j'ai dit que ça a été largement exagéré, ce côté orgie orgie avec des connotations sexuelles. Mais à l'origine, le mot orgie était plutôt une connotation d'opulence, de bien-être, de plaisir, qui n'était pas forcément sexuelle, mais essentiellement gastronomique.
Bonjour monsieur, billet en tête sur la première. La dernière fois que vous avez visité un musée romain, qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Ah, les orgies. C'est tout.
Pourquoi ? C'est quoi une orgie ?
C'est un tas de plaisir.
Mais vous en avez pratiqué ?
Ah non, j'ai pas eu cette chance justement. J'aimerais tas de nourriture surtout. Ouais.
Mais si on mange trop, comment on peut assurer après ?
Bah, il se faisait vomir aussi.
Clara Augustoni, cette vision orgiaque et quasiment partousarde de ce genre de banquet, vous en pensez quoi ?
Mais je partage donc le même avis. Effectivement, c'est souvent un peu exagéré. Il y a bien évidemment, on a des textes. Alors tout à fait aussi, il y a une lettre de Pline hein, de Pline le Jeune qui dit justement que la participer à un banquet où on ne servait pas la même qualité de mets ou d'aliments à tout le monde. Et ça l'a révolté. Alors voilà, ça s'est pas fini en pugilat, là, mais c'est fini en tout cas un échange épistulaire parce que ça nous a parvenu donc. Et il y a effectivement des exagérations au niveau culinaire. Il y a des exagérations. Enfin après ça dépend. Le point de vue, mais on en met plein la vue en sortant par exemple la toute belle vaisselle. Et ça, c'est aussi des choses qui sont vraiment claires. Donc on le voit, on le lit, on le comprend aussi d'après les images ou les informations qui nous sont parvenues.
Et au niveau des pratiques un peu olé-olé de l'époque.
Alors, il faut dire déjà, donc on sait qu'on mangeait couché la plupart du temps. Hein, donc on dit que le banquet romain se passe sur des lits, sur des divans, les clinés. Et déjà, le fait d'être couché entre hommes et femmes, donc voilà, on a un certain contact physique.
C'est, non, moi, je n'ai pas couché l'un sur l'autre.
L'un à côté de l'autre, mais parfois très rapprochés. Donc c'est vraiment des articles scientifiques qui analysent le tout et qui mettent bien en évidence, d'après bien évidemment toujours les textes latins ou les images, mais surtout les textes, qu'il y a effectivement une certaine promiscuité et puis que voilà, c'est l'un n'exclut pas l'autre, mais je pense qu'effectivement on a beaucoup exagéré en mettant l'accent sur cet aspect-là qui était un élément certainement du banquet, mais ce n'est pas l'élément principal.
On mangeait beaucoup, est-ce qu'on buvait beaucoup ?
Oui, beaucoup, ça dépend toujours comment on peut dire ça, parce qu'en fait on sait aussi qu'on boit du vin, mais qui n'est jamais pur, on coupe le vin avec de l'eau.
Salé ?
On peut servir le vin avec de l'eau salée dans certaines régions. Et pour le rendre moins acide, moins salé à boire, on rajoutait souvent du miel. Mais il faut remettre tout dans le contexte. Le vin n'était pas une boisson. Le vin était une façon de montrer sa richesse, mais aussi de donner du goût à l'eau. Parce que l'eau n'était pas du tout dans la qualité qu'on a maintenant. C'est-à-dire que c'est très important de voir que...
Il n'y avait pas mini-bulle, maxi-bulle.
Et puis le vin ne se conservait pas comme il se conserve maintenant. On conservait le vin dans des amphores à l'époque. Et conserver du vin dans les amphores, c'est pas forcément ça. Donc le vin était assez... Il y avait cette hypocrase, cette sorte d'hypocrase qui était là, qui est du vin acidulé, hein, avec du vinaigre à l'intérieur, et qu'on va sucrer avec du miel, qu'on va aromatiser, on va rajouter des épices à l'intérieur. C'est un peu... Par ma propre expérience, je dirais que c'est un peu du vin chaud qu'on boit froid, en fait. Ça a un peu ce goût-là. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment intéressant à boire. Mais il y avait d'autres choses.
On connaissait la cervoise, non ?
Ah non, on connaissait pas la cervoise.
Les bières, c'est en Égypte, non ?
Alors, oui, mais c'était pas encore communément utilisé à Rome. On buvait par contre du vin de Chio miellé, on l'appelait aussi le mulsum, et on buvait aussi du vin à la résine ou du picatum, c'est-à-dire que c'était du vin qui était parfumé avec de la résine qu'on mettait dans le vin pour lui donner ce goût un peu aigre comme ça. Et c'est hallucinant, parce que maintenant, quand on fait ces cours d'œnologie où on est là, on dit oui, il a un goût de banane framboisée, et on va vraiment dans la subtilité, là on n'est plus du tout dans la même dimension, parce que c'était quand même quelque chose qui était beaucoup plus ça tenait au corps, quoi. En tout cas, ça devait avoir un goût très fort.
J'étais dans les yeux au petit jour, je fais des tours et des aveux. Je t'ai en tête quand mes idées, souvent muettes, chantent l'été. Avec des battements de cils, je joue des tours à tes humeurs. Jusqu'à ce que tu perdes les fils, à en oublier le nom des fleurs. Je t'ai dans la peau. Je parle des crépuscules, des passants, des pavés. Je raconte la lune, je te raconte la lune. Je m'étends sur la brume ou sur tes baisers. Et moi je sais raconter tes baisers. Je décris des dizaines d'humeurs quotidiennes. Je te chante encore mes joies, mes peines. Je détaille toujours des histoires tout bas. Mais comme j'aime penser à toi, avec les battements des cils, je joue des tours.
Rendez-vous au Musée du Vallon avec Clara Augustoni, archéologue et conservatrice du Musée du Vallon. Cette vaisselle aussi vous fascine ? Ce que vous avez retrouvé là, je crois qu'il y a des ancêtres de la poêle en téflon.
Il y a des objets qui sont assez extraordinaires. Donc dans la vaisselle de table des banquets, on a des récipients, on a des plats de service, on a des coupes pour le service du vin, par exemple. En argent, on sait que la toute belle vaisselle lors d'un banquet, bien sûr, est en matière précieuse, c'est essentiellement de l'argent. Le verre aussi, j'ai même lu un texte ancien qui disait que la toute belle vaisselle en argent est magnifique à voir et tout ça, mais si on veut garder le goût des aliments et surtout des boissons, il faut quand même utiliser le verre. Donc ça, c'est très intéressant parce que il y a cette sensibilité apparemment qui existe déjà ou qui se profile.
Donc on buvait dans des verres, mais on conserve le vin dans des amphores, c'est étrange.
Oui, mais c'était aussi pour le transport, l'amphore. Mmh. Donc c'est le... Avec les tonneaux, ça existait quand même, hein, donc aussi.
Les tonneaux ont été inventés par les Gaulois, je crois. Hein.
Oui, mais on a quelques bas-reliefs qui nous montrent bien que c'était utilisé.
Regarde Obélix.
J'en profite, tiens, pour vous donner une recette. On avait dit en début de semaine, je vous donnerai des recettes. Je vous en donne une, c'est de l'eau d'orge. Et l'eau d'orge, c'était... Alors, le principe est sûr, on prenait de l'orge, hein, et puis vous la mettez à bouillir dans de l'eau. Vous donnez une grosse ébullition. Vous rincez, vous sortez ça, vous rincez vos orges, vous les remettez à cuire dans la nouvelle eau, et puis vous laissez infuser. Et une fois que vous avez laissé infuser, vous retirez ces graines d'orge, et vous rajoutez des feuilles de menthe ciselées dedans. Ils buvaient ça comme ça, avec un peu de miel. Et c'était très bon, ça devait avoir un goût...
De l'eau d'orge, personnellement, je m'attendais à autre chose. Enfin,
de l'eau d'orge.
Ah oui, de l'orge, du malt, du houblon.
Ah oui, bah ouais. Mais alors c'est vrai, tu parlais de la bière avant, il y a eu énormément de choses. On parlait du foie gras avant, le foie gras, ça a été, selon moi, ramené d'Égypte aussi par les Juifs, sachant que le foie gras, les oies, les canards, et d'ailleurs les hérons aussi et les hyènes, étaient gavés avec des dattes en Égypte. Et les Juifs, quand ils se sont exilés vers Rome, ils ont amené avec eux cette technique du gavage des oies et des canards. Ils ont conservé que les oies et les canards, et ils les gavaient avec des figues. Si on regarde bien, en latin, le mot figue et foie porte le même nom. Et le mot foie vient du mot figue, d'ailleurs. Tellement la relation était très forte entre ces deux aliments. Et c'était un mets vraiment très, très recherché, très prisé et très cher.
On pourrait peut-être s'adjoindre à les services d'une de vos collègues à présent.
Mais avec
Clara.
Plaisir, oui. Alors, effectivement, on a la chance d'avoir avec nous Marie-France Mélan-Krauset, qui est la directrice du site et du musée romain d'Avenches, avec qui on collabore depuis des années.
Bonjour.
Bonjour.
Ouais, vous venez comme ça contre la concurrence, voir ce qui se passe ici?
Oui, oui, je viens en espionne, voir si jamais ils se disaient des choses.
Ouais. Est-ce que collaboration entre musées, c'est évident toujours?
Ça devient de plus en plus évident. C'est vrai qu'on ne parle plus de concurrence. En tout cas, nous, on essaie vraiment d'être complémentaires, de travailler ensemble. Et puis, vraiment, l'histoire n'a pas de frontières, hein, ni intercantonales et interlinguistiques, disons. Voilà. Donc, on essaie vraiment de s'ouvrir.
Parlant de musée, c'est quand même le riche et le pauvre. Le musée d'Avenches, vous avez, je crois que chaque fois qu'on plante une fleur à Avenches, on tombe sur une antiquité. Vallon, ils sont tombés sur deux mosaïques en 200 ans. Est-ce que vous prêtez les objets comme ça ou est-ce que chacun garde ses petits objets à lui?
Non, alors nous sommes effectivement en marge d'Avenches parce que déjà dans l'Antiquité, Vallon était une maison de campagne dans les alentours de la ville. Mais c'est la collaboration justement qui existe entre nous, qui se voit par exemple dans cette exposition. On a, je dirais, les deux tiers des vitrines qui sont remplies par des objets qui viennent de la ville d'Avenches. Alors effectivement, on peut leur vider les vitrines puisque de toute façon, ils en ont tellement que ça nous permet à nous d'illustrer ce qu'on voulait montrer ici.
Vous n'avez pas marre des fois de recevoir autant d'objets de gens qui justement creusent un trou dans leur jardin pour enterrer leur hamster et tombent sur des bols, que sais-je? Ça se passe comment? C'est quoi en fait la valeur de ces objets? Une valeur historique évidemment, mais est-ce que certains les trouvent un peu partout et puis finalement, ben voilà, ça devient commun?
Oui, alors bon, c'est vrai parce que la culture romaine et la civilisation romaine, eh bien, il y a quand même des marqueurs hein, qu'on retrouve un peu partout. Et puis il y a des choses plus spécifiques qu'on retrouve que dans certains endroits. Les mosaïques de Vallon, elles sont spécifiques à Vallon.
En fait, vous aimeriez les avoir ces mosaïques de Vallon.
Nous, on en a beaucoup, sauf qu'elles sont pas in situ.
Comme
elles sont
disait
pas
Dujalan,
en place.
Y a encore
elles sont dans un grand débris.
Encore des objets
aussi belles.
On en a presque une centaine, hein, mais qui sont pas visibles. Alors voilà, c'est vrai que on a un petit musée aussi, puis on a énormément de découverte et que ces objets ils représentent la vie quotidienne des gens d'Avenches qui était quand même la capitale des Helvètes, donc c'était une grande ville et voilà, il y a des choses très spécifiques, hein. Vous connaissez peut-être le buste en or de Marc Aurèle, c'est une pièce unique et puis d'autres choses comme les lits qu'il y a ici dans cette exposition, il y a un lit en bronze, ça c'est aussi une pièce qui est très très rare et qu'on a la chance d'avoir découverte ces dernières années.
Mais ça continue encore à Avenches?
On connaît un tiers de la ville, hein. Il y a encore les deux tiers à fouiller.
C'était énorme comme ville pour l'époque.
C'était une ville de plus de 20 000 habitants. Aujourd'hui, Avenches a quoi, 4 000 habitants. Donc c'est vrai qu'il y a tout un champ d'activité là encore. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis actuellement, il y a un grand chantier qui est ouvert. C'est vrai que chaque fois qu'on creuse, il y a des découvertes.
Bonjour madame, c'est Bill en tête sur la première. Qu'est-ce qu'un archéologue?
Une archéologue, celle qui gratouille les pierres, qui cherche dans les fouilles, c'est ça.
Et qui fait quoi avec ça?
Ça c'est pour les musées comme ça, qui recherchent notre histoire.
Ouais. Et vous, ça vous intéresse l'histoire?
Pas trop, parce que je trouve qu'il faut avancer avec le temps.
Mais vous connaissez cette fameuse phrase, madame?
Laquelle?
Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre.
Mais moi je suis pour avancer. Alors voilà, on sait que c'est un renouvel, c'est comme la mode, hein, l'histoire.
Sauf que ça fait plus de morts qu'un défilé.
Eh oui, ça je suis d'accord.
Sauf si c'est un défilé militaire, bien évidemment. Merci.
Allez,
madame.
Au revoir.
J'aimerais qu'on resitue, on parle de Gaulois, de Romains, de Gaulois romanisés, d'Helvètes, qui était qui exactement, qui venait d'où?
Oui, alors à l'arrivée des Romains ici, il y avait des Celtes et qui parlaient le Celte. Mais ces Celtes étaient des Gaulois, mais étaient des Helvètes. Les Helvètes, c'est une des branches des Gaulois. Il y a les Allobroges du côté de Genève, il y a les Roraques du côté de Augst. Et ici, sur le plateau, eh bien, c'était les Helvètes. Et à l'arrivée des Romains, eh bien, ces Helvètes il n'y a pas eu de guerre hein, ici. Ça n'a pas été très violent. C'est qu'il y a eu de.
On est à la frontière des langues, peut-être pas à l'époque. Si.
non, parce que.
Celte plutôt, disons. Celtes. On parlait la même langue de le Suisse romand dans le Suisse alémanique.
Absolument, on parlait le celte.
Alors, donc, c'était possible qu'un jour on a pu se comprendre donc.
Jour béni de l'époque. Ouais. Oui, oui. Et puis quand les Romains sont arrivés, il y a de riches Helvètes, notamment dans la région, qui avaient des terres. C'était vraiment des notables et qui ont fait des marchés, des transactions avec les Romains. Ils ont cédé des terrains. Les Romains leur ont cédé différentes. Ils ont pu avoir faire des carrières à l'armée, par exemple. Ils ont eu d'autres avantages, des privilèges.
Parce qu'on sait que les Romains intégraient comme ça les gens qu'ils avaient colonisés entre guillemets, et que le monde romain de plus en plus se développait, qu'ils étaient considérés comme des citoyens, mais deuxième zone, troisième zone.
Ou... Ça dépend à quelle époque. Mais c'est vrai que tout à l'heure, quand vous disiez que les Romains ont pris des choses à droite à gauche de leurs voisins, en fait, c'était chez eux, parce que très vite, c'est devenu un immense empire. Et au deuxième siècle, l'Empire romain allait du Portugal à la Turquie et de l'Angleterre à l'Afrique du Nord. Donc du coup, ils étaient chez eux et la Méditerranée a représenté évidemment
un
marché extrêmement important pour eux. Hein.
Rencontre avec Marie-France Mélan, archéologue et directrice du musée romain d'Avenches dans Bille en tête.
Ils sont venus comment ces premiers Romains ici? Salut, je suis salaisonnier romain, tu es éleveur de porc local. Et c'était tout à coup l'amitié qui naissait comme ça entre gens de cultures différentes. Alors il y a eu de la violence.
Alors, ici, dans la région, il n'y a pas eu de violence. Il y a eu surtout... D'abord, ils se connaissaient d'avant parce qu'ils faisaient du commerce ensemble. Donc, ils avaient l'habitude de se côtoyer. Et puis, à un moment donné, il y a eu une politique très, très claire de la part des Romains d'intégrer de plus en plus de territoires dans leur empire.
Expansionniste, on peut le dire.
Absolument. Et à un moment donné, c'était d'abord Rome, l'Italie, le sud de la Gaule, l'Espagne, etc. Et ensuite, c'était le nord des Alpes. Et à partir du moment, vers 15 avant Jésus-Christ, tous ces territoires ont été englobés dans l'Empire romain, tous ces territoires du nord des Alpes. Et Avenches et la région en a fait partie. Avenches était un centre économique très important et d'Avenches a découlé le reste, je dirais. D'accord. Et toutes ces villas romaines et tous les, ce qu'on appelle les vici, hein, les bourgs comme Lausanne, Verdun, etc., ça faisait partie de ce qu'on appelle la Civitas, la cité des Helvètes, qui s'étendait approximativement du lac Léman au lac de Constance.
Alors pourquoi Avenche a diminué? Vous disiez juste avant qu'on est passé de 20 000 à 4 000 habitants. On a
su la décadence aussi, de l'Empire romain. Fait.
Ouais, et on sait aussi qu'il y a eu cette histoire d'une migration massive à Avenche. Une fois, tout le monde s'est taillé. Je crois que du jour au lendemain, ils ont tous pris leur baluchon. Est-ce que je mélange un petit peu tout? Qu'est-ce qui s'est passé?
Un petit peu. C'était les Helvètes, en fait, qui ont voulu migrer dans la région de Bordeaux.
Mais pour le vin, ou...
Ils sont arrêtés à Bibracte, d'ailleurs.
Exact, bravo. Voilà. Alors, c'était pour le vin, pour le soleil, pour avoir des conditions certainement meilleures.
Pour revenir te voir.
Mais alors, ça veut dire qu'ils étaient déjà au courant de ce qui se passait assez loin de chez eux.
Ah, ben, bien sûr, oui. Enfin, oui.
Et comment?
Mais parce que la communication passait, ils avaient aussi des messagers, ils communiquaient entre les peuples, ils avaient des méthodes différentes, mais oui, et par le commerce. Des gens allaient sur place, la marchandise voyageait avec d'autres personnes, il y avait tout un brassage, et qui a été extrêmement important ensuite lors de l'Empire romain, où c'est devenu un immense... Comme l'Europe aujourd'hui, c'était
un marché. Là, ça marchait.
Ça marchait 3 siècles. Un marché unique, une monnaie unique, une langue, deux langues, le latin et puis le grec en Orient. Et puis après, c'est vrai qu'il y avait une multitude de petits peuples avec d'autres langues, mais c'était unifié sous cet empire.
La Pax Romana, on dit que ça allait bien, on vivait dans le Pacifique, c'était le bonheur alors. Et c'est une des meilleures périodes de l'humanité.
De l'humanité, je ne sais pas, mais de cette époque-là, deuxième, troisième siècle, l'époque, la grande époque de cette villa, et oui, avec toutes ces mosaïques, ces peintures murales, et puis tout ce qu'on peut voir ici.
On ne serait pas tenté d'idéaliser ces périodes en ayant juste quelques extraits, quelques impressions, parfois?
Bon, non, moi, je n'idéalise pas. Bon, j'aurais peut-être voulu être, oui, peut-être un homme à cette période-là, parce que ça dépend aussi si on est esclave, si on est homme, si on est femme, ça dépend. Tout ce qu'on voit ici, c'est la grande société. Hein, les 98% des gens ne mangeaient pas comme ça et ne vivaient pas comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se dire que c'était une époque, une parenthèse extraordinaire, parce qu'au fond, en 3 siècles, on a eu des innovations fantastiques.
Cela dit, j'ai l'impression qu'on idéalise aussi certaines peuplades, certains moments de l'histoire. Maintenant, on parle beaucoup des Vikings avec cette série télévisée sur HBO, où on voit qu'à la fin du 7e siècle, 6e, 7e, 8e siècle, ces gens-là ne vivaient pas non plus comme des animaux. Il y avait aussi des raffinements, il y avait aussi une culture de la poésie, il y avait une culture de la gastronomie, il y avait un savoir-faire. Alors comment ça se fait qu'on se dit que tout à coup, oui, l'histoire est tombée un peu comme ça dans la pénombre? On parle souvent de ce Moyen-Âge naissant qui aurait vécu dans l'obscurité du savoir. Qu'est-ce qui fait qu'on ait cette distorsion-là? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas justement parler d'évolution permanente?
Alors moi, j'ai deux coupables à ça, au niveau gastronomique. Hein. Au niveau gastronomique, le Moyen-Âge a eu très longtemps une très mauvaise réputation. Et ça, on le sait maintenant, de qui ça vient? Ça vient de Brillat-Savarin et de Grimaud de la Reynière qui ont eu, eux, la particularité, on ne sait pas pourquoi, mais de dépeindre le Moyen-Âge comme une période assez sombre. Je le rappelle, Brillat-Savarin, c'est 19e siècle. C'est un monsieur qui était un professeur de musique, qui a eu des gros problèmes avec la politique. Hein. C'est incroyable ce qu'il a vécu, ce monsieur, puisqu'il a dû s'exiler à l'étranger, etc. Mais lui a laissé de nombreux écrits et curieusement, il a franchement dénigré ce Moyen-Âge à tort, puisqu'on sait que, moi je peux vous en parler, c'était une époque qui était très raffinée au niveau culinaire.
L'avis des archéologues sur l'histoire, justement, sur les moments plus sombres, les moments disons, plus lumineux, tout ça, c'est subjectif?
C'est forcément un peu subjectif. Et puis l'histoire, eh bien, s'écrit à partir d'une époque. Et puis l'époque marque ce qu'on peut dire sur les temps anciens. Donc il y a eu des époques, par exemple, où le nationalisme était très, très fort, peut l'être encore aujourd'hui, et le regard qu'on va porter sur certaines cultures, on va reporter notre regard d'aujourd'hui en se disant, oui, là, c'était pareil, etc. Donc il y a forcément une interprétation. Et on le voit, pour l'époque romaine, il y a eu un moment où, si c'est les Gaulois qui en parlent, si c'est, alors pour eux, Vercingétorix, c'est un héros, et ils vont traiter les Romains de... Pas de barbares, ils peuvent pas quand même faire ça, mais disons de dire que c'est
sauvage.
Des gens de sauvages et qui savent pas vivre, et les combats dans les amphithéâtres, etc. Et puis les Romains et les Méditerranéens vont voir les barbares comme des gens qui font des sacrifices humains, qui sont horribles, et qui buvaient du vin. Là, c'est aussi intéressant qu'ils buvaient du vin pur. Aujourd'hui, les barbares, c'est ceux qui mettent de l'eau dans leur vin, mais à l'époque, c'était le contraire. Et voilà, donc c'est forcément subjectif.
L'enquête se poursuit demain, à partir de 9h30 jusqu'à 10h sur la première d'Ambi en tête, ici au Musée Romain de Vallon, toujours en compagnie de nos deux archéologues de choc, on peut le dire, de luxe et de classe, Marie-France Mélan et Clara Augustoni.
Avec
Bille en tête, avec le Grand Hôtel des Races, 3 étoiles et sa terrasse panoramique, grandhotelrace.ch.
La première, il est 10h.